Merci pour votre accueil. Et c'est avec beaucoup de joie que, même s'il faut se lever un peu tôt pour venir depuis l'Oriole à la rue Sommerat le dimanche matin, c'est avec plaisir qu'on l'a fait. Juste une petite question technique pour ne pas incommoder qui que ce soit. J'ai combien de temps et jusqu'à quelle heure
18h.
Jusqu'à 18h. Bon, ça c'est les horaires de Guy, mais j'ai pas l'impression que ce soit les horaires de tous. C'est... D'accord, au plus tard, oui c'est bon. Très bien. En introduction, j'aimerais vous poser une question qui est toute simple, peut-être même un peu bateau, mais est-ce qu'on peut connaître ici-bas dans notre existence terrestre quelque chose qui relève du bonheur parfait? Ou même, on pourrait dire, est-ce qu'on peut connaître le bonheur parfait dans la durée dans notre existence terrestre? Alors, il est clair que dans notre vie, nous connaissons des moments de bonheur. Ça, c'est vrai, un jeune homme qui fait la rencontre de celle qui va devenir sa future épouse, c'est quelque chose qui relève d'une émotion et d'un bonheur profond. Un enfant qui vient à naître dans une famille, c'est un autre bonheur qui est remarquable, qui marque l'existence. Un étudiant qui réussit ses examens, et ça va être le cas pour, je peux imaginer, un certain nombre d'étudiants ici de l'Église durant cette fin d'année qui, début juillet, connaissent un bonheur profond parce qu'ils ont simplement validé une étape importante de leur vie d'étudiant. C'est aussi un temps de bonheur dans l'existence. Ou encore, un dernier exemple, quelqu'un qui dans sa vie rencontre Christ, ça, c'est quelque chose qui change la vie et qui est un temps de bonheur. Mais si nous faisons et si nous regardons l'existence humaine d'une manière générale, il y a aussi beaucoup de souffrances dans la vie qui viennent ternir ce bonheur. Et personne n'y échappe, croyant ou pas. La Bible ne promet pas à celui qui confie sa vie à Christ une existence dans laquelle le mal ne serait plus. Donc, le croyant est lucide sur le bonheur tout relatif qu'il peut tirer ou retirer de son existence terrestre. Mais son espérance vivante, et nous avons lu le texte tout à l'heure en introduction de la Sainte Cène dans la première épître de Pierre, le croyant a une espérance vivante qui le pousse à attendre un monde à venir dans lequel nous connaîtrons ce que nous avons peut-être du mal à imaginer aujourd'hui. Nous y aspirons, mais est-ce que nous réalisons qu'un jour nous connaîtrons le bonheur de manière durable et parfait? Autre question. Est-ce que le croyant, nous avons vu que au sujet du bonheur, c'est plutôt quelque chose à venir, mais je pose une autre question. Est-ce que le croyant dans son existence terrestre peut connaître la plénitude du Saint-Esprit? Là, l'Écriture semble nous indiquer que si le bonheur imparfait est quelque chose à venir, la plénitude du Saint-Esprit est quelque chose qui appartient à notre existence actuelle. Paul dit dans le chapitre 5 d'Éphésiens, au verset 18, il donne cette injonction, cette exhortation aux croyants: laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Et c'est quelque chose pour notre existence présente. Et c'est ce point-là que j'aimerais développer avec vous ce matin. Qu'est-ce que signifie la plénitude du Saint-Esprit? Et quels sont les signes sensibles, les signes visibles qui l'accompagnent? Ou, dit différemment, quelles sont les caractéristiques de la vie du croyant qui est rempli de l'Esprit? Alors je vous propose d'abord de consulter un texte de l'Ancien Testament dans le livre de Joël, et puis nous viendrons à ce texte que j'ai déjà mentionné dans l'Épître aux Éphésiens. Si vous ouvrez l'Ancien Testament et que vous allez dans le livre de Joël, au chapitre 3, dans le chapitre 3, qui est un chapitre qui est très bref, j'en lirai quelques éléments tout à l'heure, le prophète annonce la venue d'une époque où Dieu répandra son esprit sur tous ceux qui l'invoqueront. Et dans le contexte de ce chapitre, ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel, tel que cela est dit au verset 5, c'est théologiquement les croyants, ceux qui confieront leur vie à Christ. Alors je vous invite à lire quelques versets dans le chapitre 3, du chapitre 3 du livre de Joël. Voici ce que le prophète dit. Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes. Vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce grand jour grand et terrible. Alors tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Selon ce qu'a dit l'Éternel, il y aura des rescapés sur le mont de Sion et à Jérusalem, les survivants que l'Éternel appellera. Alors, ce texte de l'Ancien Testament nous parle de manière explicite d'une période où Dieu répandra son esprit sur ceux qui invoqueront son nom, je vais vous l'expliquer, sur les croyants. Et ce texte annonce quelque chose de nouveau. D'abord, cette effusion de l'esprit. Mais cette effusion de l'esprit qui se produira sur des hommes et des femmes, sur des jeunes et des moins jeunes. Deuxième partie du verset 1 et du verset 2. Et même sur des servantes et sur des serviteurs. Ce qui, au temps de Joël, désignait la catégorie des étrangers, en général, étaient serviteurs du peuple d'Israël, des personnes qui étaient étrangères et rattachées au peuple d'Israël. Ce qui veut dire que cette effusion de l'esprit se produira sur des hommes et des femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur condition sociale, serviteurs ou servantes, quelle que soit même leur origine ethnique ou sociale. Et ce texte nous dit que lorsque cela se produira, des signes extraordinaires manifesteront la plénitude, l'onction de l'esprit. Et quels sont ces signes dans ce texte-là ? On pourrait dire une activité prophétique, des songes, des prophéties, des visions, tout un ensemble de vocabulaire à la fin du premier verset qui sont directement liés à l'époque où ce texte est écrit, à l'activité prophétique. Alors, à la lecture de ce texte de l'Ancien Testament, pour l'instant, nous pourrions affirmer que pour tout croyant, l'habitation du Saint-Esprit se manifeste par un signe visible, extraordinaire, que nous pourrions appeler quelque chose de l'ordre charismatique. Ce texte-là, de Joël 3, quelques siècles plus tard, lors de la Pentecôte, est cité par Pierre. Souvenez-vous de ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, voilà que les disciples, et c'est pas que les 12, se retrouvent dans un lieu, et tout d'un coup, dans ce lieu, tel que cela nous est expliqué dans Acte 2, il y a eu un phénomène surnaturel, quelque chose qui ressemblait à un vent violent. Et voilà que quelque chose qui était comme des petites flammes qui sont apparues sur la tête de ces disciples qui étaient réunis. Et un troisième signe extraordinaire, c'est que ces disciples qui étaient réunis parlaient une langue qu'ils n'avaient jamais apprise. Et ça a été la stupéfaction parmi les spectateurs de ce phénomène, puisqu'on se dit, mais est-ce que ces gens-là ont bu ? Et Pierre prend la parole et dit, non, aujourd'hui se réalise. Et il cite tout le chapitre 3 du livre de Joël que nous venons de lire. Le texte dans le livre des Actes nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ce qui est une expérience de plénitude, et ils commençaient à parler dans des langues différentes. Là encore, nous pourrions formuler la même conclusion que nous avons formulée dans le livre de Joël, c'est que, appliqué à la vie du croyant, aujourd'hui, la plénitude du Saint-Esprit pourrait se manifester d'une manière surnaturelle, telle que le parler en langue. Mais est-ce que nous tirons les bonnes conclusions à partir de ces deux textes? Pas si sûr. Pas si sûr, parce que nulle part ailleurs, l'Écriture ne formalise ou ne confirme ce qu'on pourrait appeler une activité charismatique comme une expérience normative qui serait le signe de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du croyant. En fait, dans le livre de Joël, quand il est question d'une activité prophétique, des songes, des visions, des révélations, ce que le prophète est en train d'expliquer, c'est qu'il va s'opérer une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je m'explique. Au temps de Joël, les prophètes étaient des hommes désignés par Dieu et choisis par Dieu. Personne ne s'improvisait prophète. Celui qui se nommait prophète par lui-même était qualifié de faux prophète aux yeux du vrai prophète choisi par Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le prophète avait comme mission d'être porte-parole de Dieu. Il était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Le prophète rappelait la loi de Dieu au peuple d'Israël. Le prophète, troisièmement, rappelait au peuple d'Israël que s'il désobéissait à la loi de Dieu, alors il s'exposait au châtiment de Dieu. Et le châtiment de Dieu était prévu dans le livre de la loi, dans le Deutéronome. Si Israël désobéit, alors il sera soumis à la famine, à l'invasion de l'armée étrangère, à l'exil. Ces choses-là étaient annoncées et expliquées par Dieu. Et quatrièmement, le prophète, en général, annonçait quelque chose à venir dans un avenir plus lointain. Et lorsque le texte de Joël nous dit qu'arrivera un temps, et c'est l'époque dans laquelle nous vivons, la Pentecôte a démarré, le temps présent que nous vivons a démarré à la Pentecôte. Et Joël dit, Pierre, lorsqu'il cite le texte de Joël, il dit « Maintenant se réalisent ces choses, nous entrons dans cette ère. » Et le chrétien aujourd'hui n'est-il pas prophète? N'est-il pas prophète quand il témoigne de son espérance? N'est-il pas prophète lorsqu'il rappelle que celui qui ne croit pas, je résume le message de l'Évangile, est destiné au châtiment de Dieu, au jugement de Dieu? Mais qu'aujourd'hui, Dieu est celui qui pardonne, qui efface les péchés d'une vie passée, qui aujourd'hui donne une vie nouvelle. Et le chrétien n'est-il pas celui qui annonce des choses à venir? Nous annonçons le retour de Jésus-Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, nous attendons une époque, un monde dans lequel le mal ne sera plus. Aujourd'hui, nous sommes prophètes lorsque nous annonçons l'Évangile. Voilà ce que signifiait, en l'occurrence, la prophétie de Joël au chapitre 3. Revenons maintenant à cette exhortation que Paul nous laisse. Comment faut-il alors comprendre être plein du Saint-Esprit? Voici ce que Paul dit dans le chapitre 5. Du livre d'Éphésiens, verset 17. Je l'ai dit tout à l'heure, Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. » Et avant d'aller un peu plus loin dans le texte, faisons juste quelques remarques sur ce verset. Déjà, Paul dit « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Ce texte ne dit pas « remplissez-vous vous-même par le Saint-Esprit ». Pour illustrer ce que Paul veut dire, vous savez, au printemps, on fait tous les ans une expérience que moi je trouve plutôt agréable, c'est quand le soleil se met à nouveau à briller. Et vous voulez sentir la chaleur du soleil sur votre visage. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous sortez, vous tournez en direction du soleil, vous fermez les yeux et vous laissez la chaleur du soleil vous caresser le visage. C'est agréable comme expérience, n'est-ce pas? Et c'est un peu de cette manière-là que Paul incite chaque croyant à s'exposer au Saint-Esprit, à se laisser remplir par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes ou produire par notre propre volonté. Paul nous dit « Laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit ». Ça veut dire que nous sommes appelés à rechercher la face du Seigneur comme nous pourrions chercher les effets de la chaleur du soleil lorsque nous tournons son visage vers lui. Et puis sur la forme grammaticale, alors elle n'apparaît pas en français dans le texte, mais en grec. La forme grammaticale de cet impératif suggère une action durable dans le temps, quelque chose qui n'est pas ponctuel, mais qui se travaille et qui se réalise dans la durée. Donc, dans ce que dit Paul, l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit ne serait pas quelque chose de ponctuel, qui se vit dans l'instant, et que l'on peut renouveler de temps à autre, mais plutôt un effet qui, dans la vie du croyant, est appelé à se développer et se prolonger dans la durée. Enfin, troisième remarque. C'est assez rigolo de voir que Paul utilise une image pour parler de la plénitude du Saint-Esprit. Et l'image qu'il utilise est celle de l'ivresse du vin. Et qu'en méditant cette image de l'ivresse, déjà nous pouvons retirer quelques enseignements concernant cette plénitude du Saint-Esprit. Plutôt que de se laisser remplir de vin, dont nous connaissons les effets, il est préférable de se laisser remplir par l'Esprit. L'excès de vin conduit à l'ivresse, donc à la débauche. Et c'est bien ce que Paul veut mentionner. L'ivrogne mène une vie de débauche. À l'inverse, le chrétien ne se remplit pas de vin, mais du Saint-Esprit. Si Paul met une restriction quant à la consommation du vin, en fait, nous ne nous trompons pas lorsqu'il dit que, en ce qui concerne la plénitude du Saint-Esprit, à consommer sans modération. Ivresse du vin et plénitude du Saint-Esprit sont utilisés pour mentionner des similitudes, des choses qui sont parfaitement identiques, mais aussi des différences. Et la différence fondamentale, je l'ai mentionnée, l'un mène à la débauche, mais l'autre à une vie qui glorifie le Seigneur. Ça, c'est la différence fondamentale qui illustre ce texte. Mais ce texte mentionne aussi des choses identiques dans les deux cas. Le vin comme l'esprit représente un pouvoir Le vin comme l'esprit représente un pouvoir extérieur qui influence la vie du consommateur. Le vin comme le Saint-Esprit influence la marche de l'homme, d'ailleurs, au sens figuré comme au sens moral. Les deux inspirent des cantiques. L'ivrogne chante. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit fait de même. D'ailleurs, la suite du texte nous le dira. Le vin comme le Saint-Esprit égaye la vie de celui qui en consomme. En tout cas, pour celui qui a le vin joyeux. Et les deux donnent du courage. C'est vrai que, selon l'expérience de ceux qui ont une consommation plutôt élevée d'alcool, ça donne du courage. Hein. Dans les bons films, quand il faut aller au combat, en général, la petite bouteille de whisky pour se donner du courage. Le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, donne du courage. c'est quelque chose, c'est la présence même dans la vie du croyant, la présence même de Dieu, qui stimule, qui aide à affronter les situations difficiles de la vie. En fait, lorsque nous méditons cette image que Paul nous donne au verset 18, nous sommes, me semble-t-il, dans la bonne direction de ce qu'il faut comprendre de la plénitude du Saint-Esprit. Ce que nous pouvons déjà dire, celui qui vit dans la débauche ne connaît pas la plénitude du Saint-Esprit. Mais revenons à notre texte. Les versets 18 à 24 forment une seule et même phrase dans l'original. Ce qui veut dire que Paul, dans la suite de ces versets, va développer et dire ce qu'il entend par plénitude du Saint-Esprit. Tout d'abord, et il mentionne deux effets dans cette phrase qui n'en fait qu'une. Tout d'abord, le premier effet de la vie de la plénitude, d'une vie d'un croyant rempli par l'Esprit, c'est quelque chose qui se voit dans la dimension communautaire de la vie d'Église. Au verset 19 à 20, il dit que celui qui est rempli de l'Esprit chante des psaumes, et c'est vrai que dans la culture juive, faut bien se remettre dans le contexte du premier siècle après Jésus-Christ, quels étaient les cantiques chantés? Il n'y avait pas de gemme à l'époque, il n'y avait pas de « À toi la gloire », mais le recueil de chants, c'était le psautier, on chantait les psaumes. Et donc, quand Paul dit que celui qui est rempli de l'Esprit chante des chants de psaumes, nous pourrions dire celui qui aujourd'hui est rempli de l'Esprit chante les chants du vidéoprojecteur, pour une traduction appliquée à notre temps. Il s'encourage par des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. En fait, celui qui est rempli de l'Esprit loue le Seigneur à tout moment, pour toute chose, donc même en dehors de la vie de l'Église et du culte dominical, il remercie le Seigneur Jésus-Christ, il révère le Christ. Premier effet de la plénitude du Saint-Esprit, c'est un cœur reconnaissant et qui loue le Seigneur. Et suit un aspect que Paul va ensuite développer dans la deuxième partie de cette phrase. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez mutuellement les uns aux autres. L'effet de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est une juste image de soi-même. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne se met pas en avant, ne se croit pas supérieur aux autres, mais il est conscient qu'on est tous identiques les uns par rapport aux autres, graciés, et que nous sommes davantage dans la démarche du serviteur, et le serviteur c'est celui qui se soumet à ce maître, on est davantage dans un esprit où on accepte de se soumettre les uns aux autres. Et d'ailleurs, toujours dans ce cadre de la plénitude, l'exemple que Paul développe ensuite, le premier, un cœur qui déborde de reconnaissance pour le Seigneur, le deuxième aspect que Paul mentionne, c'est celui de la vie conjugale. Il dit ensuite, vous femmes en particulier, chacune à son mari, donc la question de la soumission. Le mari en effet est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Le deuxième effet à la lecture de ce texte, de la plénitude du Saint-Esprit, serait donc la soumission de la femme à son mari. Bon, c'est un peu gênant, hein. Enfin, en fait, c'est gênant si on le comprend de travers. Paul n'est pas en train de dire « Hé, les maris !» Bonne nouvelle les gars, c'est vous qui avez le dernier mot dans le couple. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui êtes dominateur dans le couple. C'est ça, non, une femme qui se soumet à son mari. Pas du tout. Absolument pas. Regardez que l'exemple que Paul invoque. Au sujet de la bonne compréhension de la question de la soumission, alors il faudrait faire une prédication en soi sur ce texte, mais rapidement. Le mari est appelé à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Waouh, ça c'est en bouche en coin pour les mariés. Hein. Ça c'est le modèle que nous sommes appelés à suivre dans notre marche avec Christ au niveau de notre couple. Et ça c'est un modèle où le mari respecte profondément le vis-à-vis que Dieu lui a donné, c'est-à-dire son épouse. Il n'y a pas de place pour un pouvoir ou un abus de pouvoir. Il n'y a pas de place pour une usurpation d'autorité dans ce cadre-là. Et Paul rappelle simplement que la femme, en vertu de l'ordre créationnel, c'est-à-dire la manière dont Dieu a créé l'homme et la femme, parfaitement égaux, il y a distinction de rôle dans le couple, c'est l'homme qui est responsable du couple, de la famille, à l'exemple de Christ, et la femme est appelée à reconnaître et accepter cet ordre des choses. Plénitude du Saint-Esprit, signe visible, même dans la conjugalité, dans la relation homme-femme. Et lorsqu'on extrapole un peu plus loin dans le texte et que l'on continue la lecture de notre chapitre 5, Paul étend les effets de la plénitude du Saint-Esprit à d'autres sphères relationnelles. Regardez qui est-ce qui est mentionné après le couple. Ce sont les relations parents-enfants. Là encore, Paul dit que le signe visible de la plénitude du Saint-Esprit dans la famille se traduit par des enfants qui sont appelés à obéir à leurs parents, mais par des parents qui éduquent leurs enfants selon la volonté de Dieu, sans les irriter. La manière dont moi, en tant que père, j'éduque mes enfants reflète ou non le « laissez-vous remplir du Saint-Esprit ». Et encore dans la suite du texte, il est question des maîtres et des esclaves. Et là encore, dans la relation employé-employeur, la plénitude du Saint-Esprit est amenée à se manifester. Ce que Paul dit dans le cadre de cette relation employé-employeur, respect de son supérieur hiérarchique et travail irréprochable. Quelqu'un qui respecte l'autorité, qui est installé dans une entreprise et qui fait son travail avec sérieux en tant que croyant, est quelqu'un qui manifeste la plénitude du Saint-Esprit. Aucune sphère relationnelle n'échappe aux manifestations des signes du Saint-Esprit dans notre vie. D'ailleurs, d'une manière plus générale, dans les versets 4 à 6, pardon, dans les chapitres 4 à 6, Paul fait cette différence constante entre l'ancienne vie, la vie sans Christ, et la vie nouvelle de l'homme nouveau et transformé par Christ. Et si vous lisez l'ensemble de ces chapitres, les versets, d'ailleurs c'est déjà au partir du verset 4, hein, du chapitre 4 décidément, jusqu'au verset 6, je vais y arriver, du chapitre 4 au chapitre 6. Lorsque vous lisez l'ensemble de ces chapitres, vous avez tous les signes extérieurs de la vie du croyant, qui sont les signes de la plénitude du Saint-Esprit. Je ne prends qu'un exemple encore dans cet ensemble de versets, puis après nous irons vers notre conclusion. Mais lorsque Paul dit au chapitre 5 que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ, manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Ensuite, Paul dit, quant à l'immoralité, aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, à la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas question entre vous, Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides, les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Toutes ces habitudes qui appartiennent à l'ancienne nature. Et Paul développe, continue, la liste de ce que nous sommes appelés à abandonner dans nos habitudes, dans notre manière de vivre. Paul dit encore au verset 15 du chapitre 5, « Prenez donc soin à votre manière de vivre. » Prendre soin à sa manière de vivre, c'est manifester la plénitude du Saint-Esprit. Prenons quelques exemples de la vie courante où nous pouvons mentionner des signes visibles de la plénitude du Saint-Esprit. Je prends quelques exemples. La liste, bien sûr, est incomplète. Par exemple, lorsqu'un parent contient sa colère parce qu'un enfant l'irrite et le pousse à bout, ce parent qui contient sa colère manifeste, me semble-t-il, quelque chose de surnaturel. Il résiste à la colère. Ce n'est pas agréable de résister à la colère. Et pourtant, résister à la colère dans ce cadre-là, c'est manifester la plénitude du Saint-Esprit. À la lumière de ce que nous avons lu. Je l'ai dit tout à l'heure, un chrétien qui accomplit avec sérieux, honnêteté son ouvrage professionnel, manifeste des signes extérieurs qui reflètent la plénitude du Saint-Esprit. Celui qui, d'une manière plus générale, dans sa vie, résiste au péché, à la tentation. Je leur ai dit, expérience non exaltante et plutôt douloureuse manifeste la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. Celui qui le dimanche matin se réjouit de venir au culte parce qu'il sait qu'il n'est pas là dans la salle uniquement pour accomplir un cérémoniel, c'est pas du tout ça que nous sommes appelés à faire, mais parce qu'il va vivre un temps de louange. Un temps où, rempli du Saint-Esprit, son cœur va être débordant de joie, de reconnaissance envers le Seigneur. Il sera stimulé à proposer des cantiques. Voilà encore un signe extérieur de la plénitude du Saint-Esprit. L'expérience de la plénitude est à notre portée chaque jour. Dans la mesure où nous laissons Dieu faire mûrir en nous ce qu'il veut voir développer dans notre vie, à savoir les fruits de l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses sont des signes extérieurs, sensibles, visibles, de la plénitude du Saint-Esprit. L'accent de la parole de Dieu sur la question de la plénitude du Saint-Esprit, elle est ici. Alors c'est vrai aussi qu'à certains moments dans la vie du croyant, et nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu, tels que Actes 4, verset 8, lorsque Pierre, pour la première fois, se met à prêcher devant tous ces hommes et ces femmes qui sont réunis à Jérusalem, il nous est dit, et Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Les croyants qui, en acte 4, sont réunis pour une réunion de prière, étaient remplis du Saint-Esprit. Il est vrai aussi que dans notre vie, parfois, nous ressentons de manière particulière, l'Esprit nous pousse à faire quelque chose. C'est aussi une réalité de le signe visible de la plénitude du Saint-Esprit. Alors je termine en ayant dit que nous sommes appelés à nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Et nous pourrions encore nous poser la question maintenant du comment. Comment y arriver? Paul est bien sympa, il nous dit de se laisser remplir. Il n'y a pas forcément le mode d'emploi avec. En fait, d'ailleurs, les fruits de l'esprit, hein, vous avez dans ce chapitre 5 de Galates, vous avez les effets de la chair, et c'est l'homme dans toute sa noirceur que Paul dépeint avant de parler des fruits de l'esprit. Et c'est rigolo, autant l'homme est responsable de son péché, autant quand il fait le bien, il n'est jamais désigné comme le responsable du bien qu'il fait. C'est l'effet de l'esprit, c'est mieux que ça en fait, c'est l'effet de l'esprit dans la vie du croyant. En résumé, lorsque nous faisons le mal, nous sommes pleinement responsables et coupables. Quand nous faisons le bien, nous pouvons dire merci Seigneur de ce que tu transformes ma volonté au point de me rendre capable de faire le bien. Ce qui est génial, parce que si nous voulons vivre ces fruits de l'esprit, eh bien oui, laissons-nous remplir du Saint-Esprit. Et que par nous-mêmes, si nous comptons y arriver par nos propres forces, nous signons pour un échec assuré. Paul démarre l'épître aux Éphésiens par cette prière qu'il fait. Il dit, je prie, voilà, afin que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Paul remercie le Seigneur parce que Dieu met en œuvre une puissance qui vise notre transformation intérieure, pour nous qui plaçons notre confiance en lui. Et regardez quelle est la nature de cette puissance que Dieu met en œuvre. Il dit, nous sommes toujours au chapitre 1, au verset 20, deuxième partie du verset 19, « Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. » La puissance que Dieu veut mettre en œuvre pour notre transformation intérieure, qui, je vous le rappelle, dure une vie tout entière. Laissez-vous transformer, c'est quelque chose qui dure, qui est appelé à s'installer dans la durée. La puissance que Dieu veut mettre en œuvre dans notre vie est la même puissance qu'il a mis en œuvre pour ressusciter Christ. Voilà la puissance que Dieu veut mettre en œuvre dans notre vie. Voilà ce qui est nécessaire pour que nous puissions porter du fruit, le fruit de l'Esprit, et être remplis du Saint-Esprit. Alors la seule attitude qui reste pour connaître cette plénitude, c'est celle du mendiant. Que fait le mendiant, sinon de demander à Dieu ce qu'il ne pourra jamais obtenir par lui-même ? Et là, nous sommes à nouveau au cœur de la grâce de Dieu. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre d'une manière conforme à ce qu'il attend de nous. Par nous-mêmes, nous en sommes parfaitement incapables. Mais la grâce de Dieu ne cherche qu'à remplir notre vie pour transformer notre être intérieur. Et voilà pourquoi Paul dit, laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Je vous invite à prier. Père, c'est la grâce qui coule de la croix, comme le dit ce cantique. Et quand nous sommes dans l'Écriture, oui, ce cantique exprime bien ce que nous lisons et ce que nous comprenons de ta parole. Alors ce matin, nous sommes là comme des mendiants. Nous constatons que nous sommes des pécheurs et moi je suis sans aucune illusion quant à ma capacité à faire le mal et à désobéir à ce que dit ta parole. Je suis pécheur, je le sais, Père, et je confesse mon péché. Et en même temps, je constate que le seul qui puisse transformer mon caractère, c'est toi. Et comme Paul nous invite à le faire, cette exhortation, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Seigneur, ma prière pour nous tous ce matin, c'est que nous soyons des hommes et des femmes dans notre quotidien qui, conscients de leur faillite, de leur péché, se laissent remplir parce que toi seul tu peux donner un esprit qui va jusqu'à toucher notre volonté au point de pouvoir accomplir des œuvres qui te glorifient. Père, que durant cette semaine qui est devant nous et dans les jours qui viennent et bien plus loin, nous ne soyons pas comme ceux qui se laissent remplir du vin en menant une vie de débauche, mais qui se laissent transformer par ton esprit. Pour que dans toute notre vie, dans tous les aspects de notre vie, nous puissions rayonner, laisser transparaître ta personne dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre vie de couple, en tant que parents qui éduquons nos enfants, dans la vie de communauté au sein de l'Église, dans la vie professionnelle, que partout notre vie rayonne de cette transformation intérieure que toi seul tu opères en nous. Et Seigneur, merci pour la puissance que tu mets en œuvre pour cela. C'est vrai, notre cœur est dur, il a besoin d'une puissance transformatrice. Merci parce qu'elle vient de toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Thank you.